France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et si nous devenions tous allergiques dans un proche avenir? C'est la question que nous posons ce matin avec le 1 Hebdo, disponible en kiosque. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les allergies sont la quatrième maladie chronique la plus répandue après les cancers, le sida, les pathologies cardiovasculaires. Et selon les chiffres de l'INSERM, le nombre d'allergiques a augmenté de 25% depuis les années 1960 et cela risque d'empirer dans les prochaines décennies. Comme le rappelle le 1 Hebdo dans son édito, cette maladie agit aussi comme un miroir de notre mode de vie urbain, chimique et hygiéniste, et dans le même temps, nous nous éloignons des autres espèces vivantes alors qu'elles contribuent à fortifier notre système immunitaire. Nous reviendrons ce matin sur les différentes formes d'allergies et d'allergènes, les traitements novateurs, la prévention, la dimension psychique des allergies. Nous verrons également s'il faut exposer les jeunes enfants à certains allergènes pour les y habituer dès leur jeune âge. Toutes vos questions sur les allergies au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Pour les personnes allergiques, notre monde devient de plus en plus hostile. Pires ennemis de la belle saison, les pollens. Au printemps et en été, ils déclenchent des éternuements en rafale. Pour beaucoup de personnes, faire ses courses au supermarché devient héroïque. Les allergiques doivent remplir leur caddie avec précaution. Et ce n'est pas parce que l'on rentre chez soi que l'on est à l'abri. La poussière et les moisissures cachées dans les recoins regorgent d'acariens qui provoquent asthme et allergie. Même les chats peuvent s'avérer redoutables. Tout comme les crevettes et les cacahuètes, qui peuvent être fatales. Des scientifiques du monde entier tentent de comprendre cette augmentation spectaculaire des allergies et ouvrent la voie à de nouvelles pistes thérapeutiques.
Extrait du documentaire « Monde d'allergiques » sur Arte en 2024. Bonjour Dr Madeleine Epstein.
Bonjour.
Vous êtes allergologue, trésorière de la Société française de psychoallergologie et vice-présidente du syndicat français des allergologues. Bonjour Laurent Robert.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM. Vous dirigez le laboratoire Asthme, Allergie et Immunothérapie à l'Institut Infinity à Toulouse. Bonjour professeur Johanna Witt. Bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'immunologie à l'Université de Reims, membre de l'unité INSERM, pathologie pulmonaire et plasticité cellulaire, et vous êtes vice-présidente de la Société française d'allergologie. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Directeur des rédactions du 1 Hebdo, avec un numéro passionnant disponible en kiosque. Demain, tous allergiques. Un mot peut-être, Julien, vous qui êtes un amoureux des mots, un mot sur l'étymologie du mot allergie.
Allergie, c'est une contraction de deux mots grecs, allos, l'autre, et ergon, réaction. Et c'est intéressant de s'intéresser à cette étymologie parce que tout de suite, ça pose la question de l'allergie, ça serait une réaction à l'autre. Donc on pourrait penser que le problème, c'est l'autre. Or, on va discuter dans cette émission, l'allergie, ce n'est pas un universel humain. Tout le monde n'est pas allergique aux mêmes réactions, et même parmi les allergiques, on ne va pas être réagique aux mêmes allergènes. Donc, dans cette idée de réaction à l'autre, eh bien en fait, c'est plutôt parfois une réaction de soi, c'est une question d'individualité.
Et dans le 1 Hebdo, le journaliste Octave Larmagnac-Matteron nous dit que si les allergies au sens médical prolifèrent, les usages métaphoriques du mot se multiplient.
Oui, bien sûr, on est tous allergiques à la surprésence de Timothée Chalamet dans les médias, on est allergique à la musique rap, on est allergique à des effets de mode qui nous submergent. Non, c'est très intéressant cette surreprésentation de l'allergie comme terme, parce que ça induit justement cette idée que nous sommes des individus qui réagissent à des stimuli extérieurs, et que ces stimuli extérieurs ne sont pas mauvais en soi. L'allergène, il n'est pas mauvais parce qu'il est rejeté qu'il est mauvais. Et donc on se pose tout de suite à travers cette idée de l'allergie la question de savoir, Est-ce que nous sommes, nous, des individus qui réagissons au monde extérieur, ou est-ce que c'est le monde extérieur qui, lui, va nous oppresser ?
Alors, docteur Madeleine Epstein, parlons de l'allergie au sens médical. Normalement, notre système immunitaire défend notre corps contre une substance qui l'attaque. Dans le cas d'une allergie, le système se trompe et se défend contre des substances étrangères à l'organisme qui ne sont pas dangereuses.
C'est exactement ça. L'allergie, c'est en fait réagir différemment. Et donc, le système immunitaire se défend contre une substance étrangère qui est normalement bien tolérée par le reste du monde. Mais le reste du monde va devenir bientôt minoritaire, c'est ça le problème.
C'est un peu comme si l'alarme d'une voiture se déclenchait pour un oui, pour un non.
Ça peut être une bonne comparaison, oui.
Professeur Johanna Witt, des précisions sur ce qu'est l'allergie ?
Oui, alors merci de me donner la parole. Je pense que d'abord, effectivement, le terme allergie est surutilisé. Dans l'utilisation habituelle, générale, qu'on en fait tous, on ne prend pas en compte la différence entre la vraie allergie et l'ensemble des autres réactions qui peuvent lui ressembler, qui s'appellent des hypersensibilités. Donc, le rôle de l'allergologue, le rôle de l'immunologiste et le rôle du chercheur, hein, donc vous avez un exemplaire de chaque sur ce plateau aujourd'hui, ce rôle est de bien identifier les allergies, de comprendre comment elles arrivent et de faire un diagnostic avec un traitement adapté pour chaque patient. Donc effectivement, on a un environnement qui est différent, on a une relation à l'environnement qui est différente et on a des réponses immunitaires qui se sont modifiées au cours des dernières 150 ans, des derniers 150 ans.
Laurent Rébert, pouvez-vous nous dire ce qu'est un allergène ?
Alors un allergène, déjà c'est présent sous vraiment de très nombreuses formes, c'est présent dans l'environnement. On sait que dans cette période-là, par exemple, on est beaucoup allergique au pollen, on peut aussi être allergique à des acariens, donc des choses qu'on ne peut pas éviter, qui sont présentes dans l'air qu'on respire. Et on peut également être allergique à de nombreux aliments, arachides, lait, noix, donc toute une famille très différente. Et en général, ce sont tous des protéines, donc ce sont les composés de tous ces aliments. Et malheureusement, pour tout ce qui est dans l'air, on ne peut pas l'éviter. Et même ce qui est alimentaire, on a beaucoup de mal à l'éviter parce que de très faibles traces en fait, d'allergènes peuvent induire des réactions allergiques.
Prenons un exemple. On n'est pas allergique aux poils de chat, à proprement parler, mais à des protéines présentes dans les fluides de l'animal, c'est ça ?
Absolument. Donc en fait, on est allergique
par
principalement
exemple,
à la salive.
Les chats sans poils peuvent entraîner des allergies, par exemple.
Et oui, parce qu'ils continuent à se lécher et donc finalement, les squames de chats peuvent nous rendre allergiques. Oui.
Alors, quand une personne allergique est sensibilisée à un allergène, à chaque nouveau contact, on assiste à une réaction inadapté de l'organisme avec à la clé un ensemble de symptômes, docteur Madeleine Epstein ?
Absolument. Après, l'intensité de la réaction va dépendre d'énormément de facteurs. Donc, ce n'est pas stéréotypé du genre, on entend « ça va être plus grave d'une fois sur l'autre », ça c'est faux. Le type de réaction et l'intensité de la réaction va dépendre déjà de l'état du sujet au moment où il va être en contact avec son allergène, de la quantité d'allergène et de la nature, parce qu'elle peut changer. Hein. Vous êtes allergique à la pomme, l'allergénicité de la pomme ne va pas être la même si vous l'avez cueillie à l'extérieur ou à l'intérieur du même pommier.
D'accord. Alors, racontez-nous le processus quand un allergique entre en contact avec un allergène, pollen, acarien, arachide. Que se passe-t-il exactement dans son corps, Laurent Rébert ?
En fait, il y a deux phases. Il y a la première rencontre avec l'allergène. On appelle ça la phase de sensibilisation. Et si cet allergène peut passer nos barrières, on reviendra peut-être sur les notions de barrières plus tard, et bien le système immunitaire va le reconnaître, puisque c'est une protéine qui n'appartient pas à notre corps, et va se mettre à faire une réaction immunitaire contre soi qui aboutit à la sécrétion d'anticorps. Et il y a une classe d'anticorps en particulier qui s'appelle les IgE, qui sont vraiment les anticorps responsables des réactions allergiques. Donc ça, c'est la phase de sensibilisation. Et une fois que vous êtes sensibilisé, si vous êtes malheureusement de nouveau en contact avec le même allergène, eh bien ces IgE vont très rapidement déclencher une cascade de réactions qui aboutit à l'activation d'une cellule qui est clé dans l'allergie, qui s'appelle le mastocyte, qui est présent en fait dans tous les organes dans lesquels on peut imaginer des réactions allergiques, c'est-à-dire abondant dans la peau, dans les intestins, dans les poumons. Et une fois que ce mastocyte est activé, ça peut arriver dans les secondes, dans les minutes qui suivent la rencontre nouvelle avec cet allergène, et bien va libérer de nombreux facteurs inflammatoires. Et le plus connu, c'est l'histamine. On connaît tous, puisqu'on prend des antihistaminiques lorsqu'on est allergique.
C'est quoi l'histamine exactement?
Et bien, c'est une petite molécule chimique qui va avoir des effets, déjà qui va diffuser très rapidement dans l'organisme et qui va avoir de nombreux effets, dont une vasodilatation. En fait, elle va entraîner une réaction inflammatoire très forte.
Qu'est-ce qui se passe concrètement du point de vue des symptômes, docteur Epstein?
Alors, comme ça vient d'être dit, le mastocyte, il y en a dans tous les organes, donc on peut avoir une réaction multi-organique. Donc les plus fréquentes, c'est déjà la peau, avec de l'urticaire, les yeux, le nez, les bronches. Donc les yeux, c'est la conjonctivite allergique, le nez, c'est la rhinite allergique, les éternuements, le nez qui coule, le nez qui se bouche, là tous les polyniques allergiques au pollen connaissent ça.
Rien que d'en parler, j'ai envie de me gratter.
et puis derrière, ça peut descendre dans les bronches, et si vous avez la capacité de vos bronches à réagir, ça donne l'asthme allergique. C'est pas d'un côté l'asthme ou les allergies, c'est l'asthme parce qu'on est allergique.
Un terme revient souvent quand on parle d'allergie, professeur Johanna Witt, c'est le terrain topique et le terrain atopique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ?
Le terrain atopique et le terrain atopique, c'est en fait la définition habituelle, classique, était celle d'une prédisposition génétique à dépendre par la synthèse d'immunoglobuline E, donc les IgE cités par Laurent, à l'environnement. Aujourd'hui, on sait que c'est un peu plus compliqué. On a effectivement une prédisposition génétique à fabriquer des IgE, mais on a surtout une prédisposition à répondre avec des réponses inflammatoires d'un certain type. Donc on les appelle de type 2, mais ça c'est un détail, on va dire, dans notre jargon spécialisé. Donc ces réponses, elles sous-tendent, si vous voulez, les réactions allergiques aux allergènes, qui sont donc des protéines de l'environnement, mais aussi les réactions d'hypersensibilité à des produits non allergisants, donc hors allergènes, de l'environnement.
Qu'est-ce que ça veut dire donc concrètement, terrain atopique, Madeleine Epstein?
C'est la capacité à produire donc ces anticorps de type IgE qui va être à la source d'une cascade de réactions, comme on vient de voir.
Bonjour professeur Boris Ancel.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de votre chronique? Quoi de neuf docteur?
Eh bien on va parler de quelque chose d'extrêmement fréquent. Les crampes qui nous font très très mal, c'est plus d'un adulte sur deux. Et je vous dirai qu'est-ce qui marche et ce qui ne marche pas contre les crampes.
Ali Rebéi. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Allergie aux poils d'animaux, à la poussière ou aux aliments, voire aux piqûres d'insectes. Les allergies sont une réaction de défense de l'organisme. Le système immunitaire considère les substances inoffensives comme le pollen comme un agresseur. Notre organisme produit alors des anticorps qui se fixent sur les globules blancs libérant des substances. Cela déclenche une réaction inflammatoire. Résultat, les yeux pleurent, le nez coule, on a même parfois boutons ou nausées. Dans le pire des cas, on peut faire un choc allergique qui touche voie respiratoire et cœur. C'est pourquoi certaines personnes doivent toujours avoir sur elles des médicaments d'urgence.
Extrait d'Arte Junior, le MAG en 2024, avec la complicité du 1 Hebdo. On se demande si nous deviendrons tous allergiques demain. Et une question de son directeur des rédactions, Julien Bisson.
Oui, on a évoqué le fait qu'en 50 ans, le nombre d'allergiques avait été multiplié par 4. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est allergique, N-A-I-T, ou est-ce qu'on peut développer des allergies à n'importe quel moment de sa vie en fonction de l'environnement?
Docteur Madeleine Epstein.
Oui, alors les deux. Il y a une part d'hérédité qui était indispensable il y a quelques décennies. Malheureusement, maintenant, l'hérédité, le génome est en train de changer sous l'effet de la pollution, des modifications de l'environnement. Donc la part d'hérédité génétique, elle est en train d'évoluer. Et puis, il y a l'exposition à l'environnement. Donc en fait, tout ça, c'est toujours multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes qui vont s'additionner pour générer la réaction. Donc au départ, on a un potentiel allergique, ou pas d'ailleurs maintenant. Et puis si on n'est pas exposé à son allergène, tout va très bien se passer. Hein. Vous vivez au pôle Nord, il n'y a pas de prairie, il n'y a pas de pollen. Jamais, même si vous êtes génétiquement prédestiné à faire des allergies, vous ne les aurez jamais. Vous allez quelque part où il y a la prairie, les pollens, les toques, vous avez les allergies qui arrivent. Donc il y a une partie personnelle de prédisposition, plus ou moins génétique, et une partie d'exposition. Et alors après, il y a énormément de facteurs qui vont influencer, c'est pas juste les deux choses, c'est votre état, ce que vous avez pris comme médicament, votre état psychologique, tout votre environnement qui va faire que ça va se passer avec telle ou telle intensité ou pas du tout.
Laurent Robert, je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'INSERM.
Oui, alors non seulement on peut naître effectivement allergique avec un terrain qui nous prédispose à l'allergie, mais il faut aussi comprendre que l'allergie, c'est une maladie de l'enfant en premier lieu, parce que ça peut se développer très tôt dans la vie de l'enfant, après les premières semaines, premiers mois après la vie de l'enfant. Et en général, ça se caractérise en premier lieu par un eczéma. Des eczémas chez l'enfant, c'est vraiment très fréquent. Et ça peut se développer ensuite vers de l'allergie alimentaire ou de l'asthme allergique très tôt dans la vie de l'enfant.
Et est-ce que le type d'allergie qu'on va développer, lui aussi, est prédéterminé ou est-ce que là aussi, ça va dépendre de notre environnement, savoir si on est allergique au pollen de bouleau ou à l'arachide, c'est pas exactement les mêmes allergies avec les mêmes conséquences sur nos vies. Est-ce que là aussi, il y a une forme de déterminisme ?
Probablement. Je pense qu'on ne le sait pas.
Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont dits polysensibilisés, c'est-à-dire qui sont sensibilisés à plein d'allergènes qui sont vraiment différents entre eux. On peut être à la fois asthmatique et allergique alimentaire. Et dans la vie de l'enfant, en général, ça commence par un eczéma et on appelle ça la marche atopique. Mm-hmm. Ça va ensuite évoluer vers d'autres formes d'allergies, notamment l'asthme et l'allergie alimentaire.
La marche atopique ?
Oui, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'allergie, c'est avant tout un problème de barrière. Et l'eczéma, donc quand je parle de barrière, je parle de nos barrières naturelles, c'est-à-dire la peau, les poumons et les intestins, tout ce qui est en contact avec l'environnement extérieur, le microbiote, donc c'est-à-dire les bactéries qu'on a à l'intérieur de nous, l'air qu'on respire, tout ce qui est en contact avec notre peau, ces barrières-là sont là pour nous protéger. Sont là pour nous protéger des pathogènes, des virus, des bactéries, mais aussi des allergènes qu'on ne peut pas éviter dans l'environnement. Et donc ces barrières vont empêcher l'allergène de pénétrer dans notre corps. Et si ces barrières sont cassées, pour une raison ou pour une autre, eh bien l'allergène va rentrer et faire cette cascade immunitaire. Et donc l'eczéma, malheureusement, on le voit bien hein, chez l'enfant, on voit que ces barrières cutanées sont cassées. Et donc l'enfant va commencer à se sensibiliser à des allergènes qu'on ne peut pas éviter dans l'environnement et va ensuite développer des allergies. Ça peut être contre les acariens, contre tout ce qui est présent dans l'environnement.
Professeur Johanna Witt, quelle est la part des facteurs environnementaux dans l'augmentation des cas d'allergies ? Quand je parle de facteurs environnementaux, je veux parler du réchauffement climatique, de la pollution atmosphérique ou encore des changements dans les pratiques alimentaires. Quelle est la part de tous ces facteurs ?
Eh bien, c'est une part très importante. C'est la raison pour laquelle certains auteurs parlent d'épidémie d'allergie qui a commencé à être rapportée, à être observée à peu près à la fin du 19e siècle, vers 1870, avec les premiers cas de rhinite allergique qui ont été d'abord rapportés en Angleterre, sous la forme de rhinite allergique au pollen de graminées, et aux États-Unis sous la forme de rhinite allergique au pollen d'ambroisie. Mm-hmm. Et c'était lié, donc les liens qui ont été faits pour ces premiers cas rapportés de manière assez importante ont été faits avec l'amélioration des conditions d'hygiène des populations sur une large base, donc l'assainissement, l'accès à de l'eau pure et non plus contaminée par des bactéries issues, par exemple, des déjections. Et donc, ce faisant, la capacité de l'organisme à se défendre contre des bactéries de l'environnement n'a plus été nécessaire. Et en n'ayant plus cet entraînement immunitaire, l'organisme a commencé à développer des réponses plutôt de type allergique vis-à-vis de l'environnement. De plus, l'environnement a changé avec beaucoup de substances qui sont considérées comme irritantes. Mmh. Donc on a parlé de la pollution, avec une augmentation des allergènes. Par exemple, quand il fait plus chaud, on a plus de pollen, des quantités de pollen libérées par les plantes qui sont plus importantes, et ou des quantités de protéines qui provoquent les allergies plus importantes dans chaque grain de pollen. Donc tous ces facteurs pris ensemble font qu'il y a une pression environnementale plus importante sur un système immunitaire, donc sur les capacités de défense de l'organisme, qui sont modifiées par notre mode de vie depuis l'ère industrielle.
Alors, selon l'OMS, la moitié de la population des pays qui ont un mode de vie à l'occidental pourrait être allergique à l'horizon 2050. Docteur Madeleine Epstein, c'est énorme.
Oui, c'est énorme. C'est là où je disais tout à l'heure, ça va devenir la norme d'être allergique. C'est la conjonction des modifications de l'environnement, des modifications du génome. Et je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit. C'est effectivement une maladie de l'enfant, mais il y a énormément d'adultes qui démarrent des allergies à des âges même avancés. Moi, j'ai vu des gens démarrer un rhume des foins à 75 ans. Mon record, c'est une allergie alimentaire à 88 ans. Donc, ça veut dire que c'est la modification de l'environnement qui fait que la prédisposition peut s'exprimer à n'importe quel moment de la vie. Je précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, passé un certain âge, ils ne peuvent plus être allergiques. Donc, c'est important de savoir que ce n'est pas toujours exact.
Question très pratique, est-ce qu'il y aura suffisamment d'allergologues pour absorber cet afflux massif d'allergiques dans les décennies qui viennent ?
Malheureusement, on est déjà en nombre insuffisant. Les prédictions actuelles ne montrent pas une augmentation suffisante, mais c'est aussi le cas pour toute la démographie médicale. On est tous très mal lotis.
Professeur Boris Ancel.
Petite question à nos experts. Vous avez mentionné la possibilité d'une apparition d'allergie très tard. Inversement, est-ce qu'un terrain atopique peut finalement ne pas se manifester à l'âge adulte? Je pense notamment à l'eczéma. Moi, j'ai vu des cas d'enfants qui étaient très touchés par l'eczéma atopique et finalement qui n'ont pas développé d'allergie grave à l'âge adulte. Est-ce que si on a une eczéma atopique, on va forcément développer une allergie ?
Alors en fait, c'est intéressant, puisque l'eczéma, c'est juste une anomalie, comme ça a été dit, de la barrière cutanée. Derrière, si on a la capacité à faire des IgE et à faire des allergies, si on se sensibilise et qu'on a ce terrain allergique, derrière, on va développer des allergies. Mais si on ne l'a pas, on n'aura pas d'allergique. Donc je crois que c'est à peu près la moitié des eczémas atopiques qui finalement ne va jamais faire d'allergie et qui peuvent guérir. Hein, la majorité, la courbe, elle est très descendante. Il y a un pic à 2 ans et puis ça diminue vers l'âge adulte. Alors malheureusement, il y a quelques adultes qui restent avec leur eczéma parfois sévères toute leur vie, mais la majorité des eczémas atopiques disparaît au cours de l'enfance et du début de l'âge adulte.
Mais est-ce que ça peut s'endormir ? On a de l'eczéma quand on est enfant, plus d'eczéma pendant une grande partie de sa vie d'adulte, et ça peut ressurgir.
Tout peut arriver dans tous les sens, et c'est imprévisible.
Laurent Robert.
Ça reste très mystérieux, parce que si on prend le cas de l'allergie alimentaire, par exemple, il y a certains allergènes. L'enfant va être allergique, par exemple, à l'œuf ou au lait très tôt dans sa vie, et ces allergies ont tendance à disparaître au moment de l'adolescence, alors que d'autres allergies, celles aux noix, aux arachides en particulier, tendent à persister tout le long de la vie et sont très sujettes à faire ce qu'on n'a pas encore évoqué, mais c'est les réactions allergiques les plus graves, qu'on appelle le choc anaphylactique.
Rappelez ce que c'est.
Alors, le choc anaphylactique, en fait, c'est toutes les réactions allergiques qu'on a mentionnées au niveau du poumon, au niveau de la peau, des intestins, en même temps. C'est-à-dire que le système s'emballe et très rapidement. On a évoqué les mastocytes. Les mastocytes de notre corps vont tous s'activer en même temps et faire cette réaction qui peut être catastrophique, qui parfois peut être même fatale, qu'on appelle le choc allergique ou anaphylaxie.
Oui, alors en fait, c'est une dilatation générale de tous les vaisseaux. Ça fait chuter la pression artérielle et ça peut entraîner un arrêt cardiaque, plus l'œdème laryngé. Donc il y a deux dangers dans cette anaphylaxie. C'est le risque de choc cardiaque, c'est-à-dire d'arrêt cardiaque, qui se récupère pas mal. Mmh. Et puis le risque d'asphyxie par œdème laryngé. Et le pronostic de l'anaphylaxie, c'est surtout la présence d'un asthme. En fait, la majorité des décès par anaphylaxie, c'est des asthmes qui ne sont pas équilibrés et qui déséquilibrent leur asthme à l'occasion de l'anaphylaxie.
Le traitement d'urgence ?
C'est l'adrénaline.
Le stylo
auto-injectable d'adrénaline dont chaque patient à risque doit être muni et surtout connaître son maniement en amont d'un éventuel événement, parce que s'ils ne savent pas s'en servir avant, ils ne sauront pas s'en servir pendant.
Professeur Johanna Witt, comment identifie-t-on les allergènes coupables? Comment s'y prend-on pour savoir? Tout à l'heure, avant l'émission, Amélie Perrier nous disait qu'elle était allergique, mais elle ne savait pas à quoi exactement. Comment on fait pour déterminer l'allergène responsable de sa pathologie?
Oui, merci pour la question. Justement, c'est un domaine dans lequel, depuis 30 ans à peu près, 20 à 30 ans, on y voit plus clair, hein, dans le sens où on doit absolument, évidemment, commencer par une consultation avec un allergologue, chez un allergologue, donc pour avoir une, ce qu'on appelle une histoire clinique bien prise, donc des questions orientées, posées par l'allergologue, qui définiront le risque d'avoir tel ou tel, d'abord le risque d'avoir une vraie allergie, et ensuite de définir un groupe d'allergènes suspects. Donc quand on dit allergène, on comprend donc les substances de l'environnement, et ensuite on a recours à des tests. Donc c'est absolument indispensable d'avoir les tests en complément des questions, de manière à avoir un diagnostic de l'allergie. Et donc les tests, ils peuvent être cutanés chez l'allergologue ou biologiques, et au niveau des tests biologiques, on a depuis 10-15 ans des capacités d'identification des allergènes au niveau moléculaire qui sont absolument fantastiques. On peut utiliser des molécules et donc identifier, si vous êtes allergique à plusieurs pollens, on peut identifier celui qui est réellement responsable et quelle molécule dans ce pollen-là est responsable. Mmh. De la même manière, si vous réagissez, si vous avez un enfant allergique à l'arachide, vous pouvez savoir si c'est une allergie sévère, vous pouvez faire des prédictions d'évolution. Donc, une des raisons pour lesquelles les maladies allergiques, finalement, restent mystérieuses, c'est parce qu'on pense qu'on ne peut pas les caractériser. Mais au cours des toutes dernières années, on a compris que ce qu'on appelle des marqueurs, donc certaines IgE, en fonction de leur cible dans le sang, peuvent être utilisés comme des facteurs prédictifs de la sévérité, donc de la gravité d'une allergie et de son évolution au cours du temps, en plus de sa réponse à différents traitements possibles.
Laurent Robert.
Oui, en fait, le gros défi, c'est le nombre dans les allergies, puisqu'on disait d'ici à 2050, la moitié de la planète qui serait sensibilisée à au moins un allergène. Et donc, effectivement, on a des outils pour diagnostiquer, pour mesurer les IgE, par exemple, contre des allergènes. Mais comment on va faire pour diagnostiquer la moitié de la population mondiale? Là, c'est vraiment le vrai défi. On parlait d'un problème nombre d'allergologues, mais il y a vraiment un réel problème au niveau du diagnostic. C'est comment on fait face à une telle pandémie d'allergiques.
Question de Julien Bisson.
Oui, pour préparer ce numéro du 1 Hebdo, on avait découvert une archive de l'ORTF des années 50 qui parlait des débuts de la désensibilisation. Et l'archive se terminait par... Les allergies seront bientôt vaincues. 70 ans plus tard, il y en a beaucoup plus. Alors, est-ce que ça veut dire que la désensibilisation ne marche pas ou est-ce que, simplement, c'est beaucoup plus compliqué que cela?
Laurent Robert.
Oui, alors c'est un réel constat. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de l'allergie, finalement, la recherche sur l'allergie a été très en retard par rapport à d'autres domaines comme la cancérologie, etc. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis maintenant, on va dire 10 à 20 ans, ça bouge énormément. Pourquoi? Parce que l'industrie a pris conscience que la moitié de la planète va être à traiter demain. Et les laboratoires de recherche en ont pris conscience. Donc il y a énormément de choses qui se font maintenant. Et donc on est en train de rattraper ce retard très rapidement.
Beaucoup de questions sur la pollution atmosphérique qui augmente les risques d'allergie respiratoire. La pollution atmosphérique qui se fixe, hein, je schématise évidemment, qui se fixe sur les grains de pollen, ce qui les abîme et les rend encore plus allergènes. Et la pollution attaque également les muqueuses, hein, qui deviennent plus perméables aux pollens et aux graminées. C'est ça, docteur Epstein?
C'est exactement ça. Alors c'est les pollens de graminées.
Les pollens de graminées.
Les pollens de toutes les plantes, en fait. C'est sûr que quand le grain de pollen est attaqué, il libère davantage de ce qu'on appelle des allergènes, en fait, de ces molécules allergisantes. Il y en a à la surface et quand il est attaqué, il en exprime encore plus. Donc, il est plus allergisant. Et puis, les muqueuses, comme vous avez très bien dit, sont abîmées. Donc, elles sont plus perméables. Et tout ça, ça crée de l'inflammation qui augmente la réaction, la gravité et l'intensité des réactions. C'est une spirale descendante.
Bonjour Saïd.
Bonjour.
Vous appelez du Vaucluse. Bienvenue.
Oui, merci. C'est la première fois que je passe à la radio, par contre. Hein. Donc, c'est la première fois que j'appelle. Et donc voilà, justement, je me suis, par rapport au sujet de l'émission, je me suis inculqué depuis environ 3 ans, hein, parce que j'avais beaucoup de problèmes nasales, comme tout le monde, hein, la gorge qui piquait, des choses comme ça. Et que personnellement, j'ai une petite astuce, hein, je peux même... pour les auditeurs, ça peut leur apporter aussi mon expérience, hein, c'est-à-dire que j'applique des petites choses, hein, c'est-à-dire que quand je sors dehors avec tous les boulots, les arbres sols et tout ça, les choses comme ça, quand il y a une diffusion de pollen.
Qu'est-ce que vous faites?
Quand je rentre à la maison, à chaque fois, je me lave le visage. Même mon nez au niveau de moi, je fais un lavage de nez, hein, 3-4 fois, voilà, assez fréquemment, à partir où je sors, hein, parce que en plein printemps, c'est ce que je fais. Et les cheveux, c'est la même chose, parce qu'on peut avoir des petites traces de pollen, hein, des choses comme ça. Je veux dire des petits pollens au niveau du cheveu. Et donc je veux humecter un peu, voilà, les cheveux comme ça. Et après le lavage du visage et aussi il y a autre chose aussi que je voulais rajouter. C'est aussi au niveau des lunettes.
Celui qui
peut mettre des lunettes et tout ça, ça peut justement moins piquer les yeux. Il y a ça. Et aussi, le masque, en plein printemps, ça m'arrive pas tout le matin, parce que c'est pas à ce moment-là que le pollen se propage.
Le docteur Epstein vous approuve, Saïd.
Oui, c'est parfait, c'est exactement ça. Il faut diminuer au maximum le temps de contact avec l'allergène et éviter qu'il arrive à sa cible, qui sont les muqueuses. Donc protéger les muqueuses et laver derrière pour enlever.
Et systématiquement le soir quand on rentre à la maison.
C'est très très fastidieux, c'est très contraignant, mais ça aide beaucoup.
Merci beaucoup, Saïd, de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Nous accueillons Cyrine Benyounès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes programmatrice de cette émission et également journaliste. Depuis que vous êtes enfant, vous êtes allergique au pollen, aux acariens, à la poussière de maison. Comme dans le dessin de la couverture du 1 hebdo, il vous aurait fallu peut-être une combinaison et un masque respiratoire pour respirer une fleur.
Hein. Oui, c'est une assez bonne dépiction de ma vie depuis l'enfance. J'ai toujours été allergique, je crois qu'au seuil maximal de pollen, de graminées, particulièrement du bouleau, qu'on retrouve beaucoup en Île-de-France. Et donc ça a toujours été une gênance dès l'enfance, et ça a évolué en asthme, comme on a pu le dire dans l'émission, et depuis tout récemment en eczéma, donc en dermatite atopique très sévère. Et
quel était le traitement jusque-là? Parce que vous allez nous raconter que depuis 2 mois, un nouveau traitement a changé votre vie. Mais quels étaient les traitements?
Jusqu'ici, les prémices de mon allergie, c'était des antihistaminiques, hein, cétirizine, etc. Ensuite, avec l'asthme, ça a été Ventoline pour les crises et corticoïdes inhalés pour le quotidien.
Avec une qualité de vie très affectée. Hein.
Oui, absolument.
C'est pour cela que vous bénéficiez depuis 2 mois d'un nouveau traitement. Il s'agit d'une injection bimensuelle de dupilumab, c'est le nom de la molécule. Expliquez-nous un petit peu les changements dans votre vie depuis que vous bénéficiez de ce traitement.
Oui, donc c'est ma dermatologue qui m'a prescrit ce médicament, qui est un médicament spécial, hein, qui n'est pas prescrit à tout le monde. Il faut une ordonnance que ce n'est pas tous les médecins qui peuvent la donner. Et en fait, donc, c'est une injection tous les 15 jours d'un stylo qu'on s'injecte nous-mêmes dans le bras ou dans n'importe quelle partie du corps. Et en fait, ma vie a drastiquement changé parce que les démangeaisons se sont atténuées presque immédiatement. Et je profite du printemps comme n'importe quelle personne.
Vous pouvez respirer les fleurs.
J'ai découvert l'odeur des fleurs. Enfin, c'est bête comme ça, mais j'ai découvert l'odeur des fleurs et des parcs sans irritation. Et je ne sais pas si c'est un médicament révolutionnaire ou qui peut aider tout le monde, mais en tout cas, pour moi, ça a grandement changé ma vie.
Laurent Robert.
Oui, donc c'est très important, en fait, ce qui a été mentionné, c'est qu'environ 90% des allergiques sont traités par des traitements qui ne s'attaquent pas à la maladie, mais qui s'attaquent aux symptômes de la maladie. Donc les antihistaminiques, les corticostéroïdes, la ventoline, etc. Donc là, finalement, on ne fait pas disparaître la maladie. La maladie va revenir dès qu'on est de nouveau en contact avec l'allergène. Et effectivement, ce que vous avez mentionné, ce traitement qui s'appelle dupilumab, mais il y en a d'autres maintenant, c'est des traitements qui s'attaquent vraiment au mécanisme même de la pathologie. En fait, ce sont ce qu'on appelle des anticorps thérapeutiques qui vont aller bloquer la cascade inflammatoire qui a lieu lorsqu'on rencontre l'allergène. Et donc là, c'est effectivement révolutionnaire dans l'allergie. Ça s'est apparu depuis maintenant 10-15 ans. Le problème, c'est que ça a un coût très élevé et que donc il va falloir trouver un moyen de faire baisser les coûts pour s'attaquer au plus grand nombre d'allergiques.
Dr. Epstein.
Moi, j'ai entendu parler de traitements symptomatiques, j'ai entendu parler de ces nouveaux traitements qu'on appelle des biothérapies, qui sont effectivement fantastiques et qui résolvent des cas complexes et très graves. Mais entre les deux, ça a été évoqué tout à l'heure, mais pas, pas d'une manière positive, on a quand même des possibilités actuellement de désensibilisation. On a fait d'énormes progrès par rapport à ce qui se faisait il y a 40 ans, il y a 50 ans, désensibilisation. Effectivement, c'était expérimental. Maintenant, je ne dis pas qu'on a 100% de bons résultats, mais on arrive à améliorer 80% des allergiques. Donc, il y a quand même de la marge entre les deux extrêmes.
Allez, il est 10h42, l'heure de retrouver Quoi de neuf, docteur, du professeur Boris Ancel.
Ah ouais, ça me le fait, là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur?
Sur France Inter.
Et Boris Ancel, vous évoquez ce matin les solutions efficaces contre les crampes nocturnes.
Eh oui, vous vous reposez paisiblement, Ali, et tout à coup, une douleur brutale vous transperce le mollet. Votre jambe est figée. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé.
Peut-être.
En tout cas, plus d'une personne sur deux a déjà eu cela. C'est une crampe nocturne. Ce qui se passe, c'est que votre muscle se contracte de façon incontrôlable et ne se relâche pas. Ce phénomène très douloureux, je le disais, est très fréquent, en particulier après 50 ou 60 ans.
Est-ce qu'on connaît la cause de ces crampes ?
Alors, dans la majorité des cas, non. On appelle ça des crampes idiopathiques. Mais parfois, il y a une cause sur laquelle on peut agir pour faire disparaître les crampes. Tout d'abord, tout simplement, la déshydratation extrême ou encore la consommation excessive d'alcool qui favorise les crampes. Ensuite, il y a la chute de potassium, du magnésium ou du calcium dans le sang. Là, il faut faire une prise de sang pour savoir si on est concerné. Également, un mauvais fonctionnement de la thyroïde peut provoquer des crampes. Et puis, il y a le retour d'expérience des patients qui sont précieux. Je pense notamment à cet homme qui souffrait de crampes très douloureuses la nuit. On avait tout essayé et un jour, il me dit « Docteur, je n'ai rien changé le soir. Je mange comme avant, sauf une chose. J'ai supprimé le pain. Et depuis, plus de crampes. Et si je reprends du pain, j'ai des crampes. Si j'arrête, je n'en ai pas. » Alors bien sûr, ce n'est pas une preuve scientifique. Ce qui a marché chez lui ne marche pas chez d'autres, mais chez lui, le lien était clair.
Alors, que peut-on faire pour prévenir les crampes quand on n'a pas trouvé la cause ?
Alors, le plus important, probablement, c'est de faire des étirements. Il y a une revue scientifique Cochrane qui a montré que des étirements quotidiens pendant 6 semaines réduisent la sévérité des crampes nocturnes. En pratique, vous pouvez étirer les mollets chaque soir avant de vous coucher, à la jambe tendue, talon au sol. On pousse le bassin vers l'avant contre un mur pendant 30 secondes de chaque côté.
Et les compléments alimentaires, est-ce que ça fonctionne ?
Alors le magnésium, ça c'est populaire, mais disons la vérité scientifique, c'est pas plus efficace qu'un placebo, en particulier dans les crampes des personnes âgées. Bon, après on peut essayer, si ça fonctionne chez soi, ben, on peut continuer. En revanche, il y a la vitamine K2 qui récemment a fait parler d'elle. Il y a une étude récente qui a montré qu'elle réduit la fréquence, l'intensité et la durée des crampes nocturnes chez les personnes âgées. Et puis il y a un remède de grand-mère. Alors c'est pas très scientifique, mais certains nous disent que ça fonctionne. Bah, faut dire la vérité, c'est pas très très agréable au bout de quelques heures, mais on peut toujours essayer, c'est mettre du savon de Marseille dans son lit. On pense que c'est rien, mais je peux vous dire qu'au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, on le ressent. Bon, ne me demandez pas comment ça marche, mais si ça fonctionne, tant mieux.
Et si la crampe arrive tout de même ?
Alors, il faut immédiatement étirer le muscle douloureux. Par exemple, pour une crampe au mollet, jambes tendues, on tire les orteils vers soi. Également efficace, le massage circulaire ou encore la compresse ou la douche chaude, le chaud, sur la crampe, c'est efficace. Et puis, il y a ce remède étonnant, le jus de cornichon. Ne riez pas, Ali. Ne riez pas. Dans une étude très sérieuse, en 2010, des chercheurs ont provoqué des crampes chez des volontaires. Il faut aller être volontaire. On leur a provoqué des crampes avec une stimulation électrique d'un muscle. Eh bien, le jus de cornichon a entraîné un arrêt très rapide des crampes musculaires. On pense que cet effet est dû à un réflexe neurologique provoqué par quelques millilitres du jus de cornichon au fond de la gorge. Il ne faut pas boire un verre de jus de cornichon. C'est vraiment quelques millilitres. Plusieurs de mes patients m'ont rapporté une efficacité redoutable avec une disparition des crampes en moins de 40 secondes après avoir bu un fond de verre. Bon, le plus important, si vous avez des crampes, c'est d'écarter les causes qu'on peut traiter et ensuite de tester les solutions qu'on a mentionnées et de voir ce qui vous convient. Il faut trouver les références scientifiques parce que, je le répète, il y a des références scientifiques pour chaque chose que j'ai dite sur le site de France Inter.
France Inter. France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et avec la complicité du 1 Hebdo disponible en kiosque, on se demande si nous deviendrons tous allergiques demain. Docteur Madeleine Epstein, beaucoup de questions sur les allergies alimentaires. Progressent-elles aussi vite que les allergies respiratoires ?
Je dirais même plus. Hein, dans le temps, quand on parlait d'allergies, on se cantonnait aux allergies respiratoires. Petit à petit, on a vu arriver des allergies. Dans le temps, c'était le céleri, c'était pomme. Mm-hmm. Avec le boulot, les gens ne le savent pas, ils n'en mangent pas, mais c'est la plus fréquente des allergies alimentaires. Et de plus en plus, on a vu arriver des cacahuètes, des fruits à coque, énormément des crustacés, les laitages, les œufs. On a vu se diversifier la gamme d'allergènes et de réactions et de plus en plus d'enfants.
Mais comment on l'explique ?
Bah ça, c'est les modifications, alors c'est toujours pareil, c'est modifications du système immunitaire, modifications de l'environnement, et puis la synergie qui se fait dans le mauvais sens. Quoi. C'est chacun aggrave l'autre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour la pollution. D'un côté, ça touche les muqueuses, de l'autre côté, ça touche les allergènes, et c'est une dynamique qui va dans le mauvais sens.
Est-ce qu'il existe, professeur Johanna Witt, un lien entre le développement, l'augmentation de ces allergies alimentaires et le microbiote intestinal ? Est-ce qu'il y a des liens ?
Oui, ça fait partie des liens avec l'environnement, puisque le microbiote est lié à notre mode d'alimentation et l'environnement dans lequel on vit, le niveau d'hygiène, le fait de se nourrir avec des produits qui contiennent des pesticides ou qui sont aseptisés eux-mêmes. Donc oui, il y a un lien avec le microbiote entre guillemets bénéfique, et celui qu'on retrouve dans les sociétés qui ont gardé un mode de vie traditionnel, par exemple dans les villages, dans les fermes, au contact des animaux, dans des pays qu'on considère pas occidentalisés, alors que le microbiote, donc les microbes que nous avons dans le tube digestif, mais aussi sur la peau et d'une manière générale sur toutes les surfaces de l'organisme, sont modifiés quand on vit dans un pays à mode de vie occidentalisé et qu'on a un mode de vie urbain. Donc oui, il y a un lien entre les allergies et le microbiote.
Laurent Robert, directeur de recherche à l'INSERM.
Oui, ce qu'il faut aussi mettre en avant, c'est que ces explosions de cas d'allergies, notamment allergies alimentaires, c'est depuis les années 70-80. Donc effectivement, ça vient avec l'industrialisation des pays, avec l'apparition de polluants, d'irritants, etc. Mais aussi avec l'ultra-transformation de notre alimentation, c'est-à-dire des aliments dits industriels. Hein, vous pensez à votre junk food favori. Et en fait, ce qu'on soupçonne
maintenant... Beaucoup d'additifs, d'émulsifiants, de colorants...
Absolument.
Notamment.
Beaucoup de sucre et de dérivés de sucre qui, en fait, on soupçonne maintenant, vont directement attaquer les muqueuses, provoquer des réactions inflammatoires un peu silencieuses qui favoriseraient le développement d'allergies.
Question de Julien Bisson, oui. Directeur des rédactions du 1 Hebdo.
Faut-il désensibiliser systématiquement les enfants, voire les bébés, aux principaux allergènes ?
Alors, il y a des études qui vont dans ce sens. Il y a une étude qui s'appelle la LEAP Study, qui est très connue là-dessus, qui portait sur la désensibilisation à l'arachide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, on a fait disparaître l'arachide des écoles il y a maintenant très longtemps, de peur que les enfants développent beaucoup d'allergies aux arachides, ce qui est vraiment un fléau aux États-Unis et chez nous maintenant. Et en fait, cette étude-là montre qu'au contraire, si dans des familles à risque, on réintroduit très tôt dans la vie de l'enfant l'arachide, on a plutôt tendance à largement désensibiliser les enfants et donc empêcher l'apparition tardive d'allergies alimentaires.
Docteur Epstein ?
Oui, en fait, c'est la fenêtre de tolérance qui existe pour tous les aliments entre 4 et 6 mois. Et donc, il a été démontré que quand on introduit entre 4 et 6 mois de chaque aliment, c'est-à-dire tout ce qu'on peut, à ce moment-là, il y a un risque de développer l'allergie qui diminue. Et bien entendu, il ne s'annule pas, mais ça diminue fortement.
Donc, y compris des cacahuètes, des crevettes, des
huîtres. À 4 mois, hein.
Alors, toute la problématique réside dans le fait suivant, c'est que si on introduit un aliment, mais qu'on ne continue pas à le donner à l'enfant après, il va perdre la tolérance et il risque de devenir allergique. Donc en fait, ça n'est applicable que pour les aliments qui sont culturellement consommés dans la famille.
Allez, je vous propose d'écouter le professeur Nyan Famti sur l'aspect neuropsychique de l'allergie. C'était sur France Culture en 2025.
On a fait une étude il y a quelques années sur l'influence du stress sur la survenue de l'allergie et notamment dans l'asthme. On s'est rendu compte que ce risque-là était aggravé par le stress que l'on a mesuré sous forme de questionnaire que l'on a donné aux parents et aux enfants. Je vais vous donner un exemple. On a eu une petite patiente qui avait des manifestations extrêmement fortes et aiguës. Et quand on a pu mettre en évidence un problème de harcèlement à l'école et qu'on a pu le traiter, eh bien cette petite patiente n'avait quasiment plus de symptômes après. Donc ça veut dire que quand même on a une influence de, encore une fois, de ce système neuropsychique.
Le professeur Nien Famti, dans l'émission La Science au Labo sur France Culture, dans le 1 Hebdo, ce chercheur et praticien explique que le démarrage des crises de certains patients peut donc être corrélé à des événements de vie, comme les changements de rythme, la fatigue, le surmenage, le stress, de façon générale. Une suractivité neuropsychique qui peut catalyser la réaction allergique, allumer l'étincelle dans le système immunitaire, docteur Epstein.
Oui, bien sûr. En fait, d'une manière général, tout ce qui est stress va influencer notre état somatique et c'est valable en fait pour toutes les pathologies. Le stress, il appuie là où ça fait mal. Donc c'est la conjonction toujours d'une prédisposition à avoir une certaine pathologie avec le stress qui va démasquer cette pathologie.
Donc le neuropsychisme est un facteur aggravant sur un terrain inflammatoire programmé génétiquement.
Absolument.
Ouais. Cyrine Ben-Younès, vous êtes avec nous, vous êtes programmatrice de cette émission. Alors vous nous avez dit en préparant cette émission au bureau que les événements de stress dans votre vie, de fatigue, avaient un impact très direct sur la survenue de vos allergies.
Absolument, et ça va même être des stress très ponctuels. Imaginons, je sors de chez moi et tout d'un coup je me dis, est-ce que j'ai pris ma Ventoline ? Le stress monte, je ne trouve pas ma Ventoline dans mon sac, je sens la crise arriver, je tombe sur ma Ventoline et d'un coup tout va mieux. Et après ça peut arriver dans des situations qui sont du stress sur le long terme, je prépare un entretien d'embauche, voilà, le stress monte, le climax arrive pendant l'entretien, je fais une crise d'asthme en plein entretien d'embauche, voilà, vous avez l'air intelligente comme ça, en vous étouffant avec vous-même, alors qu'il n'y a aucun symptôme, enfin, il n'y a rien qui pourrait dire...
Comment expliquer ces liens ? C'est très intéressant, docteur Epstein, entre un stress, une anxiété et la survenue d'une allergie.
Ça, c'est les connexions qu'il y a entre le système nerveux et le système immunitaire. C'est-à-dire que quand vous avez un stress, vous sécrétez des substances qui vont activer le système immunitaire. Donc ça se traduit très bien d'une manière somatique.
Et comment faire pour que ce stress, ce neuropsychisme, souffle moins sur les braises de l'allergie ? Qu'est-ce que vous conseillez ?
Il y a les deux versants. Il y a autant que possible apprendre à gérer son stress, qui est une parole pieuse.
Oui.
Et puis... avoir les médicaments qui permettent de contrôler les symptômes. Je ne sais pas si à ce moment-là, vous aviez un traitement fond, bien régulier de votre maladie asthmatique qui, normalement, aurait dû permettre de ne pas faire cette crise.
Oui. Je le prends tous les jours, ça c'est une autre histoire.
Les liens entre l'asthme et les événements stressants de la vie, Laurent Robert.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre...
Et quels sont les liens, rapidement, entre l'asthme et les allergies ? On n'a pas abordé cette question.
Justement, pour l'asthme, on parle maintenant de plus de 300 millions de personnes dans le monde. Il faut bien comprendre que ces 300 millions ne souffrent pas de la même pathologie. Elles ont les mêmes symptômes, des difficultés respiratoires, etc. Mais il y a énormément de causes et de mécanismes différents qui vont aboutir à ces mêmes symptômes. Et donc c'est tout le défi, en fait, c'est de comprendre est-ce que c'est allergique, est-ce que c'est non allergique. On pense qu'environ 50 à 60% des cas d'asthme sont réellement dit allergique, donc en réponse à un allergène. Et par contre, pour le reste, pour l'asthme non allergique, il y a encore moins de solutions thérapeutiques et c'est encore plus mystérieux.
Le mot de la fin, Julien Bisson.
Oui, pour mesurer les progrès scientifiques qui ont été faits depuis un siècle, on en publie dans le 1 un extrait de Marcel Proust, de La Londe des jeunes filles en fleurs. Marcel Proust, grand asthmatique, qui va d'ailleurs finir par en mourir. Et quand il était enfant, il avait des étouffements et son médecin lui recommandait, je cite... de la bière, du champagne ou du cognac.
Bon, on ne va pas recommander ça en 2025. Merci beaucoup Cyrine Ben-Younès, merci docteur Madeleine Epstein, merci Laurent Robert et merci de professeur Johanna Witt. Merci Julien Bisson. Le numéro du 1 Hebdo consacré aux allergies est disponible en kiosque.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.